Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition du format débat du Collimateur, le casque et la plume, j'ai le plaisir de recevoir nos trois chercheurs, think tankers et débatteurs réguliers de ce format. Tout d'abord, Rim Momtaz, consultante research fellow à l'IISS, l'International Institute for Strategic Studies. Bonjour Rim.
Bonjour.
Ensuite, Ulrike Frank, senior policy fellow à l'ECFR, l'European Council on Foreign Relations. Bonjour Ulrike.
Bonjour Alexandre.
Et enfin, c'est le grand retour d'Eli Tenenbaum qui avait cédé sa place la dernière fois à Olivier Schmitt et qui nous avait beaucoup manqué évidemment, même si on était ravis de discuter avec Olivier et de profiter de son coup de gueule désormais mythique sur le gaullisme gériatrique des experts de plateau télé. Je recommande évidemment d'aller réécouter ça pour les auditeurs qui auraient raté l'épisode. Je pourrais peut-être falloir que vous essayiez de faire aussi bien que ça, Eli, que vous vous lanciez dans un réquisitoire, je sais pas, contre le pompidolisme déliquescent ou contre le mitterrandisme avarié. Enfin, je vous laisse un peu de temps peut-être pour travailler la chose.
Merci pour le challenge, Alexandre.
Alors, on est aujourd'hui réunis pour parler cette fois, pas de l'Ukraine, ça nous aura pris 4 épisodes quand même pour réussir à trouver un autre sujet de discussion, mais de l'affrontement entre Israël et l'Iran et de la stabilité de la région suite aux attaques de drones et de missiles de l'Iran le 13 avril, qui faisait elle-même suite à l'attaque d'Israël du 1er avril sur le consulat iranien en Syrie. Autour d'un article de Foreign Affairs, puisque c'est toujours un peu le concept du casque et la plume, de partir d'un article pour centrer le débat en quelque sorte. C'est un article donc de Suzanne Maloney intitulé « How America can prevent the war between Iran and Israel, threat on Tehran, pressure Netanyahu », paru le 18 avril, donc « Comment les États-Unis peuvent éviter une guerre entre l'Iran et Israël, menacer l'Iran, menacer Téhéran, faire pression sur Netanyahu ». Je mettrai évidemment le lien dans la description de l'épisode. Et je vais juste mentionner qu'on a un petit peu hésité avec un autre article intéressant de Foreign Affairs, dont on parlera aussi, qui émanait de l'ancien secrétaire d'État adjoint et ambassadeur sous George W. Bush, Elliot Abrams, qui est intitulé lui « Comment Israël peut gagner la guerre à Gaza et dissuader l'Iran », qui est quand même, on va le dire, un poil moins subtil, puisqu'il propose globalement de ne jamais arrêter la guerre à Gaza, en gros, et de soutenir Israël sans limite. Mais il n'est pas inintéressant non plus sur d'autres plans, notamment parce qu'il réfléchit à la question du Liban, dont on reparlera, je pense, aujourd'hui. Alors, c'est donc, on va partir du premier article que j'ai mentionné, celui de Suzanne Maloney, qui essaye d'examiner ce qui s'est passé dans cette attaque iranienne sur Israël, et quels sont les leviers d'action américains dans la région et sur Israël. Alors peut-être, première question un peu large, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet article et disons de cette appréciation sur cette séquence et cette attaque iranienne, Eli Tenenbaum?
Moi j'ai trouvé les deux articles, enfin on va dire, l'article de Suzanne Maloney assez bon, enfin je suis pas mal en convergence avec ce qu'elle pense, un peu consensuel de ce point de vue-là et pas forcément hyper stimulant. Là où Abrams était pratiquement à l'opposé, c'est-à-dire je suis en désaccord avec 90% de ce qu'il dit, mais de ce point de vue-là assez stimulant, avec plein d'idées qui sont des mauvaises idées mais qui du coup créent du débat et qui nous forcent peut-être davantage à réfléchir. Donc voilà, je trouve que les deux lectures sont bonnes et c'est pas forcément ceux avec qui on est le plus d'accord qui est toujours le plus intéressant à lire.
Raymond Pell?
J'étais plutôt d'accord avec ce que Suzanne a dit sur l'ampleur et l'importance de la frappe iranienne, parce que à un moment, beaucoup trop de gens ont essayé de dire qu'en fait, les Iraniens n'ont pas vraiment fait une frappe qui était très importante, qui était très sérieuse, que c'était du bluff. Ce n'était pas du bluff, et je pense que Suzanne l'explique très bien. Après, elle fait une bonne nuance sur que ça ne soit pas un bluff, ça ne veut pas dire que l'Iran voulait en fait déclencher une grosse guerre et faire des dégâts mortels énormes en Israël. Donc sur ça, j'ai apprécié la nuance qu'elle a apportée. De l'autre côté, elle parle d'une manière trop floue et diffuse pour moi de la pression que l'administration américaine peut et doit exercer sur Israël pour qu'on arrive à une débouche et un début de solution de ce conflit qui maintenant dure depuis presque 7 mois, avec encore des otages israéliens retenus par le Hamas depuis maintenant plus de 200 jours, et évidemment plus de 30 000 morts à Gaza, bref un carnage. Et donc elle me laisse un peu sur ma faim, parce que c'est vraiment ça le cœur du sujet aujourd'hui. Je suis sûre qu'on en reparlera. Et juste sur Abrams, j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis vraiment pas d'accord avec rien du tout. et puis, je trouve franchement qu'un ancien de l'administration Bush vienne encore parler d'une sorte de débasification de Gaza pour refaire le même désastre qu'ils ont fait en 2003 en Irak. Il faut vraiment avoir beaucoup de culot et beaucoup de cran pour penser qu'on peut avoir encore une certaine légitimité.
L'argument, il est merveilleux d'Eliot Abrams, c'est vraiment... Alors, on a tout merdé en Irak. Du coup, on ne va pas faire des leçons à Israël parce qu'ils sont en train de tout merder à Gaza. C'est vraiment.
Mais
c'est...
en leur disant, vous devriez faire la même chose qu'on a fait en Irak quand on a fait notre dépacification, vous allez faire la déhamasisation et ça va être génial.
En expliquant d'ailleurs qu'il va justement il va retenir les leçons de l'Irak parce qu'il ne s'intéressera qu'aux couches hautes du système du Hamas. Donc, quand même, il a appris ses leçons.
Bref, revenons sur l'article de Suzanne Meloni. Ulrich.
Juste encore rapidement sur l'article de Suzanne Meloni. C'est intéressant parce que justement, je me suis focalisée sur exactement les mêmes points que Rim. Donc, commençons par la fin. Moi, j'étais assez surprise à quel point elle semble dire que les États-Unis ont vraiment de l'influence sur Israël. Parce que franchement, depuis le 7 octobre, je me pose cette question. Et à un moment, elle dit même que justement, Biden has used US leverage with Israel. As he did recently after an Israeli strike killed 8 workers and he has achieved real progress. Donc voilà, Biden qui a mis de la vraie pression sur Israël et il a eu du succès avec. Et moi, je me suis posé la question, donc la mesure, est-ce que c'est vrai? Enfin, c'est bien entendu, là, on sait tous qu'il y a des discussions entre les US et Israël. Et s'il y a un acteur dans le monde qui a un peu d'influence sur Israël, c'est les États-Unis et c'est certainement pas l'Union européenne. Je crois qu'on est d'accord sur ça. Mais néanmoins, ça m'a un peu surpris à quel point elle semble dire Biden peut vraiment influencer ce que fait Bibi. Donc là, j'aimerais bien voir justement vos analyses parce que voilà, mes deux collègues ici sont beaucoup plus experts que moi. Mais juste deuxième point, parce que ça, je trouvais très intéressant, Rim, ce que tu as dit sur la nuance sur l'attaque iranienne. Parce que pour moi, c'est vraiment la question, et comme je dis, je ne suis pas experte sur ça, mais est-ce que tu ou CLI, est-ce que vous croyez vraiment que l'Iran croit... Enfin, à quoi est-ce que l'Iran s'attendait vraiment? Est-ce qu'ils savaient que cette attaque n'aboutirait à rien? Est-ce qu'ils étaient surpris? Parce que, voilà, je ne suis toujours pas très claire sur qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire.
Vous êtes un peu trop modeste, Ulrike, puisque vous êtes quand même spécialiste, notamment des drones, et que c'est quand même... Non, mais c'est quand même une grande partie. La question de savoir ce qui a été employé et comment ils l'ont employé, et ce qu'ils pouvaient en attendre est totalement central. Mais justement, allons-y, parce que c'est effectivement une partie centrale de l'article dont on débat aujourd'hui, cette question de faire le post-mortem, en quelque sorte, de cette attaque. Alors, on l'a beaucoup fait sur les plateaux télé, sur les plateaux radio, le lendemain matin, où c'était vraisemblablement quand même un petit peu tôt pour essayer de débriefer tout ça. Maintenant, 10 jours plus tard, on enregistre ça le jeudi 25 avril, On sait que ça a été une très grosse attaque d'un point de vue quantitatif. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à votre avis, sur les moyens qui ont été employés et les objectifs qui étaient vraisemblablement poursuivis par l'Iran? Je ne sais pas, Eli?
Ouais, juste un tout dernier point de contexte. Bon, on a deux textes qui sont américains, écrits par des Américains et qui ont malgré tout une vision assez américaine du conflit, avec d'un côté un néoconservateur, canal historique, vraiment comme on utilise souvent le terme de néoconservateur en France à tort et à travers. Très, très souvent de mauvaise manière, juste pour parler de quelqu'un qui est hawkish.
Américain.
Qui est, voilà, oui, non, mais disons qu'il est un peu dur, faucon, mais là, dans le cas d'Abraham, c'est un vrai. Et Maloney, voilà, on va dire plutôt sur une ligne pragmatique, plutôt démocrate, là aussi canal historique. Mais dans les deux cas, c'est des Américains. Et donc, forcément, ça biaise aussi la perspective. Je voulais juste le rappeler, si vous lisez aujourd'hui des textes produits par les Israéliens, qui peuvent ou les discours qui émanent du côté du monde arabe ou dans ce qui transparaît de la République islamique d'Iran, évidemment les sons de cloche sont différents, et même en Europe je pense qu'on a un regard un petit peu différent. Pour revenir sur la question de la séquence Israël-Iran aéro-balistique,
je vais préciser une dernière seconde que Suzanne Maloney, son domaine de compétence c'est l'Iran,
c'est
sa spécialité, c'est là-dessus qu'elle conseille, c'est sur sa connaissance du régime iranien qu'elle a conseillé à l'administration républicaine et démocrate, mais surtout démocrate.
Avec des points d'ailleurs très, très justes et très, à mon avis, très, très réalistes sur la nature du régime et justement sur ses ambitions dans cette affaire-là. Donc il y a peut-être, voilà, juste la séquence, tout le monde la connaît. En général, on l'a fait démarrer de la frappe sur le complexe diplomatique iranien à Damas par les Israéliens, frappe qui visait le général Zaidi, qui était donc le commandant de la force Al-Quds des gardiens de la Révolution, donc une force destinée à l'action à l'étranger, notamment au soutien d'un certain nombre d'alliés, partenaires, groupes irréguliers au Moyen-Orient de l'Iran, donc par les Israéliens. Cette frappe elle-même n'arrive pas dans un vacuum, dans un vide stratégique. Depuis le 7 octobre, en fait, le nombre de frappes israéliennes sur des intérêts soit iraniens, soit liés à l'Iran dans toute la région avait augmenté, et inversement les acteurs liés à l'Iran avaient très largement augmenté leur niveau d'activité et d'attaque contre Israël et contre ses alliés, notamment par exemple les Américains en Syrie, en Irak, en Jordanie, etc.
Donc on peut dire que c'est les bases américaines en Irak et en Syrie qui prenaient très très cher coups de missiles et d'enquêtes.
Oui, plus de 400 frappes qui ont été tirées pendant cette période-là. Et même si on continue le dézoom, en fait, depuis la guerre en Syrie, ou le milieu de la guerre en Syrie, on va dire vers 2013-2014, le nombre d'interactions et de frappes israéliennes sur des convois militaires, des transferts d'armes, etc., avait commencé à se désinhiber par rapport à ce qu'on avait vu avant la séquence syrienne. Donc on est quand même sur une séquence de temps long. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut sous-estimer le seuil qui a été franchi au moment du tir iranien sur Israël, mais c'est quand même évidemment important de le remettre et pas forcément de commencer.
Ça c'est
uniquement
tout à fait central. Ouais. La question, c'est de savoir qui a franchi les limites et qui a transgressé. Et le côté iranien dit que c'est Israël en faisant un raid aérien en Syrie.
C'est toute l'histoire du Moyen-Orient, Alexandre. Enfin, en même temps,
est-ce qu'on peut trancher aujourd'hui qui a commencé
exactement
au Moyen-Orient et qui a foutu la merde
Fondamentalement, il faut remonter à 79, et puis il y a beaucoup de gens qui vous diront qu'il faut remonter à 48, et d'autres qui commenceront en 1916, etc.
Sans rentrer jusqu'à 48, parce qu'on n'a pas le temps, c'est vraiment le seul sujet là, la question du temps. Non, mais sans revenir à ça, je pense que objectivement parlant, on peut dire que depuis le 7 octobre, étant donné le traumatisme du 7 octobre et ce que le 7 octobre dit de la défaite du modèle et de la doctrine sécuritaire et de défense israélienne, Israël est dans une posture escalatoire pour restaurer sa dissuasion. Et donc, elle a Israël a décidé qu'il fallait restaurer la dissuasion en tapant ultra, ultra fort à Gaza et contre le Hamas, mais aussi en tapant très fort contre le Hezbollah et l'Iran. Et donc, Israël assume ça. Ils sont dans une posture escalatoire parce qu'ils pensent que c'est la seule manière de pouvoir restaurer leur sens de la sécurité. Il faut vraiment comprendre qu'il est très ébranlé. Nous, on est loin de ce conflit, on est loin de cette région, mais les Israéliens le ressentent comme ça. Donc ça, c'est très important. Et depuis, ils sont dans une posture où ils veulent taper aussi fort que possible le Hezbollah et l'Iran, et ils veulent même essayer d'entraîner le Hezbollah dans une guerre, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a une situation inédite en Israël, c'est le déplacement forcé d'au moins 80 000 Israéliens du nord d'Israël, ce qui ne s'est jamais produit depuis des décennies de conflits avec le Liban. Et ça, ça a un coût économique très important pour le gouvernement israélien, mais aussi c'est une pression politique très importante sur le gouvernement.
Déplacement forcé de la part du... c'est fait par le gouvernement israélien.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont demandé aux populations du Nord, au début, donc dès après le 7 octobre, de se déplacer parce que pour les mettre en sécurité.
Si jamais le Hezbollah se réveille.
Si jamais le Hezbollah voulait profiter de la faille du 7 octobre. Le Hezbollah ne l'a pas fait, mais évidemment, il y a une escalade de plus en plus importante depuis le 7 octobre entre le Hezbollah et Israël, qui fait que ceux qui n'étaient pas partis parce que le gouvernement leur a demandé sont partis parce qu'ils ont peur. Et ça, ça ne s'était vraiment jamais produit. Et ils sont toujours déplacés, ça fait 7 mois. Alors évidemment, il y a autant de Libanais aussi déplacés du Sud-Liban. Donc, il y a les deux. Mais le Liban, il y a toujours eu ces déplacés. À chaque fois qu'il y a une guerre avec Israël, les Libanais sont déplacés de force. Les Israéliens, c'est la première fois. Donc ça, c'est vraiment un changement majeur. Et ces gens soutiennent une tape très forte contre le Hezbollah pour essayer, puisque c'est pas, ça ne sera pas facile de l'éradiquer, pour essayer au moins de l'affaiblir d'une manière assez permanente. Donc il faut comprendre ce contexte. Et ce qui nous a surpris tous, les gens qui travaillent sur le Moyen-Orient, c'est que depuis le 7 octobre, l'Iran et le Hezbollah sont plutôt dans une posture de retenue. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux facteurs. Un, les États-Unis, très rapidement, ont fait fonctionner leur dissuasion, juste après le 7 octobre, en envoyant leur groupe aéronaval et en envoyant des messages diplomatiques au Hezbollah et à l'Iran pour leur dire « ne songez pas à élargir le front et ne rentrez pas dans une grosse guerre avec Israël », mais aussi en disant aux Israéliens « n'élargissez pas votre front ». Donc ça, ça a fonctionné, mais aussi l'Iran et le Hezbollah ne veulent pas une guerre maintenant. Ça ne, c'est pas dans leur intérêt en ce moment, ça ne les arrange pas d'avoir une grosse guerre. Pour plein de raisons, on va parler de raisons économiques, de raisons de problèmes politiques intérieurs, bref, on va
ça
pas...
Ça a fonctionné jusqu'à un certain mois, parce que le niveau d'escalade sur la frontière nord, en fait, est très élevé.
Et c'est exactement ça. C'est qu'il y a maintenant, il y a un effet d'accumulation depuis 6-7 mois. La frappe sur l'annexe du consulat iranien à Damas a franchi un seuil pour les Iraniens. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé, bon, la retenue, ça suffit. Maintenant, on va monter dans une escalade et une vraie escalade. Et depuis la frappe, il y a une vraie escalade entre le Hezbollah et Israël.
Parce qu'on sait qu'évidemment, les Iraniens ont toujours été extrêmement sourcilleux sur l'immunité des bâtiments diplomatiques. C'est vraiment tout à fait leur culture diplomatique. Ulrike ?
Oui, donc premièrement, on a interrompu Elie, désolé, donc peut-être que tu veux continuer ton analyse là dans une seconde, mais juste pour reprendre cette idée de Rim sur Israël qui veut restaurer la dissuasion. La question pour moi, c'est toujours... Est-ce que l'Iran n'a pas, en fait, offert vraiment cette opportunité à Israël de restaurer la dissuasion en lançant cette attaque qui, apparemment, a pu être interceptée si facilement? Et pour moi, la question, c'est toujours, est-ce que ça, c'était par hasard ou justement pas du tout ce que l'Iran voulait, ou est-ce que c'était by design? Et si c'était by design, donc c'était plutôt un bluff ou pas?
Enfin, je pense qu'on anticipe pas.
J'aimerais bien. Ouais,
parce que c'est aussi le truc très nébuleux quand on n'est pas là-bas. Il y a plein de choses qui sont dites. Il y a notamment plein de messages qui peuvent être envoyés par l'Irak, par la Syrie. on ne sait réellement pas comment l'Iran a préparé ses frappes et les messages qui ont été envoyés ou pas envoyés par des tiers. Donc voilà, restons sur la question centrale de qu'est-ce que l'Iran a fait et qu'est-ce qu'il comptait vraiment faire en lançant ces 170 drones, 130 missiles, etc.
Alors, Eli, juste... Encore une fois, désolé de retarder un tout petit peu le moment très attendu où on va rentrer sur l'analyse de la salve de missiles et de l'efficacité de la défense antimissile israélienne et de l'impact que ça a sur l'équilibre de dissuasion. Mais juste pour aller dans le sens de Rim et sur cette notion de volonté de restaurer ou de rétablir l'avantage israélien ou l'équilibre israélien en matière de dissuasion dans la région. Effectivement, le 7 octobre, les attaques du 7 octobre sont perçues évidemment comme un trauma en Israël, mais comme un signal de fragilité et de vulnérabilité extrêmement fort d'Israël qui est perçu comme une menace existentielle de ce point de vue-là. C'est-à-dire que les attaques elles-mêmes n'étaient pas de nature à faire disparaître l'État d'Israël, mais si le signal de vulnérabilité envoyé était d'une certaine manière accepté, alors ça pouvait avoir des conséquences sur, on va dire, existentielles ou sur les intérêts vitaux d'Israël. Et de ce point de vue-là, en théorie de la dissuasion, on explique toujours que celui qui a la domination dans l'escalade, escalation dominance, ça s'applique à deux facteurs. Soit c'est celui qui a le plus de moyens, donc il peut continuer à escalader parce qu'il a plus de ressources, soit c'est celui qui a les intérêts les plus élevés. Et ça, on le voit sur plein d'autres facteurs. Vous pouvez parler de Taïwan, vous pouvez parler de l'Ukraine. Cette question du facteur asymétrie des intérêts, perception de la symétrie des intérêts par des acteurs, elle est essentielle pour expliquer pourquoi certains acteurs escaladent et d'autres n'escaladent pas. Israël considère qu'il a des intérêts vitaux en jeu et donc effectivement, ils ont une maîtrise de l'escalade et qu'ils peuvent se permettre d'escalader puisque c'est leur survie qui est jouée. Et ils considèrent que l'Iran, de ce point de vue-là, n'a pas d'intérêts vitaux en jeu et les Israéliens se sont sans doute trompés à un certain point sur la nature des intérêts iraniens ou la manière dont les Iraniens percevaient les intérêts qu'ils avaient en jeu en termes réputationnels, que ce soit au Liban, en Syrie, etc.
C'est-à-dire, si on se fait assassiner un général, un de plus, soit dit en passant, parce que c'est pas exactement le premier assassinat ciblé d'un général iranien, en plus, dans un enceinte diplomatique, en plus, en Syrie, est-ce qu'on passe pas un peu pour des crocs? Et est-ce que passer pour des cons, ça devient un intérêt existentiel pour l'Iran?
Mais d'où l'importance de la séquence avant la frappe du 1er avril sur Damas, c'est-à-dire que vous aviez eu pas mal de frappes israéliennes, dont une frappe contre un autre haut gradé de la force Al-Quds au Liban, cette fois-ci, qui avait provoqué des réponses habituelles depuis le Liban sur Israël, et finalement les Israéliens, progressivement montaient les marches et so far so good se disaient qu'ils pouvaient continuer à pousser plus loin ce plan général visant à rétablir leur crédibilité militaire et leur capacité à faire respecter leurs menaces. Encore une fois, dernier point là-dessus, la dissuasion telle que pensée par Israël est très très différente de la dissuasion telle qu'elle est vue en France, parce qu'en France, notre dissuasion et un spécifiquement nucléaire, est donc considéré comme une dissuasion de non-emploi. On dissuade en faisant peur, mais en ne tirant zéro coup de feu. Les Israéliens, c'est une dissuasion par le geste en permanence. Ils font respecter des lignes rouges, donc c'est une dissuasion qui se traduit systématiquement par des frappes, par « regardez, je vous ai dit que ça, c'était pas possible, je frappe pour vous montrer que voilà ce qui se passe quand vous franchissez la ligne rouge ». Donc, c'est une dissuasion extrêmement frictionnelle et extrêmement dans l'interaction permanente militaire et cinétique.
Et je rajouterai, le danger actuel, c'est que malgré le fait que Israël et l'Iran et Israël et le Hezbollah se font la guerre depuis littéralement des décennies, la réalité, c'est qu'ils connaissent très mal ou très peu leurs lignes rouges réelles les uns et les autres. Et aujourd'hui, Israël ne fait pas seulement de la dissuasion à travers le geste, mais elle fait même de la reconnaissance par le feu. C'est-à-dire qu'elle teste les limites d'où ils peuvent pousser, jusqu'à où ils peuvent pousser le Hezbollah et l'Iran, à travers des frappes réelles. Donc en faisant des opérations, en tuant des gens importants, etc. Et en fait, en prenant un risque inouï de mauvais calcul. C'est-à-dire, à un moment, ils vont toucher un truc qui va être au-delà du seuil acceptable. C'est ce qui s'est passé avec l'annexe exactement à Damas. Ils ne s'attendaient pas nécessairement à ça. Par contre, ils sont prêts. C'est ça la différence d'Israël. C'est qu'ils ne s'attendaient pas nécessairement à ce que ça déclenche ce genre de réaction, mais ils étaient quand même prêts à assumer le risque et prêts à assumer les conséquences. Évidemment,
est-ce que l'Iran est prêt ?
Alors ça, c'est une très bonne question. L'Iran a toujours envoyé ce genre de message que c'était un système qui était totalement prêt à assumer ce genre de risque, que c'était un système guerrier dont la posture était d'être dans une guerre avec Israël jusqu'à maintenant, qui a toujours été
par intermédiaire.
Et là, c'est pour ça aussi l'importance du moment dans lequel on est. On a l'impression de voir en temps réel un basculement, un changement de la doctrine de dissuasion iranienne. Et on ne sait pas où on va réellement. C'est-à-dire, on n'a pas encore, nous, en tant que qu'analystes, tous les éléments pour comprendre. Est-ce qu'ils ont décidé que la patience stratégique, c'était fini, c'était terminé? Est-ce qu'ils ont décidé qu'aujourd'hui, l'Iran va rentrer dans le conflit directement et plus que l'utilisation donc des proxys qu'ils ont en Irak, au Liban, au Yémen? Est-ce qu'ils ont changé le seuil? Donc tout ça est encore en cours de, on va dire, découverte. C'est ce qui aussi rend la période actuelle tellement flammable et tellement dangereuse.
C'est toujours la question un peu plus fondamentale de la dissuasion. On en parlait avec Olivier Schmitt la dernière fois. On ne peut pas prouver la dissuasion. Enfin, oui. C'est-à-dire, celui qui est dissuadé peut dire qu'il a été dissuadé. Généralement, il ne le dit pas. Donc, il y a un problème vrai, surtout pour deux pays qui ne se parlent pas depuis 79. Il y a un réel problème de savoir comment on peut avoir même un sens de quels sont les leviers pertinents à la fois pour Israël et pour l'Iran.
Et donc là, juste de ce point de vue-là, on a une dynamique intérieure en Iran, je ne suis pas du tout spécialiste, mais qui avec quand même un régime qui est durci aujourd'hui, avec des gens qui poussent sur une ligne beaucoup moins
dans la retenue
que ce qui a été le cas par le passé. Soit dit en passant, en l'espace d'un an, on a quand même l'Iran qui a attaqué directement deux nations nucléaires. Le Pakistan, on a oublié qu'il y a eu des frappes, enfin des tirs, des échanges de tirs entre l'Iran et le Pakistan l'année dernière et maintenant Israël. Donc ce qui montre en tout cas une propension à l'escalade et inversement à la non-retenue qui a été mal anticipée peut-être par ceux qui voyaient dans l'Iran un acteur un peu plus pusillanime, qui voulait uniquement agir de manière indirecte et qui ne voulait jamais assumer l'escalade directe. Et donc, ce qui nous amène à la question de comment l'Iran a décidé de modeler ou d'élaborer cette réponse, qui était une réponse mûrement réfléchie, puisque ça a pris deux semaines. Donc il y a eu sans doute beaucoup de discussions quand même à Téhéran, entre le guide, entre les gardiens,
entre les différentes factions, avec la Russie,
avec la Chine.
Peut-être,
pas nécessairement.
Mais en tout cas, ça a pu être consulté ou en tout cas pris en compte. Ou les réactions, des partenaires de l'Iran ont sans doute été sous-pesées, effectivement. Et donc ils sont arrivés à ce choix, d'une salve massive. Et là, on revient sur l'article de Maloney. Je suis d'accord, et d'accord avec Rim, que cette salve n'a pas été calibrée pour être uniquement un spectacle pour le monde arabe. Et c'est pas juste un feu d'artifice pour montrer, regardez ce qu'on est capable de faire théoriquement, mais en fait, on veut faire mal à personne. Je pense qu'ils espéraient qu'il y ait un niveau de saturation et de percée supérieur à ce qui a été. Et ce faisant, ils prenaient effectivement un risque. Parce que la réponse israélienne, les deux articles en l'occurrence ont été écrits avant la réponse israélienne, n'aurait fondamentalement pas été la même si vous aviez eu même 50 morts en Israël. Là, vous en avez eu zéro.
Ulrich. Puis d'ailleurs, sur cette, même cette salve aussi, puisque c'est quand même une méga salve de drones qui a été entremêlée de trois choses, d'un certain nombre de missiles balistiques. Mm-hmm. Mais globalement, c'est ce que les Russes ont balancé sur l'Ukraine, soit deux ou trois. Mais ce n'est pas fonctionnellement très, très différent de ce qui se voit en Ukraine.
Il y a eu des drones, il y a eu des missiles de croisière, c'est ça, et des missiles balistiques. Et finalement, la grande majorité n'a même pas réussi à atteindre le territoire israélien et justement a été abattu par soit les systèmes de défense israéliens ou alors, il faut quand même le rappeler, des systèmes des Américains, des Français, les Anglais. Pardon ?
Et puis par des avions surtout, ça c'est
exactement
un des aspects de la réponse dont on n'a pas encore parlé. Mais...
Et d'autres pays arabes justement, donc tout ça, ça a été très, très intéressant. Et il faut peut-être aussi qu'on parle un peu de justement les actions françaises, mais juste pour quelqu'un qui regarde tout ça un peu de dehors, parce que justement je ne suis pas experte de la région, moi j'avais l'impression que l'Iran avait vraiment essayé de finir avec cette frappe avant qu'elle a même eu lieu. Parce que justement, on a eu des messages sur comme quoi, c'est fini, on fait ça, mais on ne fait pas plus, pendant que les drones étaient encore en l'air. Donc moi, j'avais vraiment l'impression que l'Iran a voulu se montrer comme the adult in the room, donc genre l'acteur qui montre du... Voilà, l'acteur responsable qui montre du retenu. Et donc, l'escalade, je vois bien que c'est une escalade d'envoyer tout ça du territoire iranien. Ça, c'est nouveau. Mais néanmoins, j'ai un peu l'impression que l'Iran a quand même donné une sorte de victoire à Israël. Et d'ailleurs, Maloney, elle parle de « win for Israel ». Et je me demande, étant donné que Ali, tu as dit qu'ils ont quand même mis du temps à réfléchir sur ça, est-ce que finalement l'Iran a réussi à ce qu'il voulait faire? Parce que moi, j'ai l'impression que non. Finalement, franchement, ils ont réussi à aider l'Israël à réétablir un peu leur dissuasion. Et, point pour moi très, très important, à rappeler aux alliés d'Israël, enfin, à réunir, en fait, les alliés d'Israël derrière Israël. Et ça, je trouve quand même très important, étant donné que surtout les pays occidentaux, donc les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, les trois pays qui ont aidé Israël, il y a quand même énormément de discussions, au moins au niveau de la société, sur les actions d'Israël au Gaza, etc. Donc il y a énormément de polémiques sur ça. Mais finalement, d'après ce que j'ai lu et compris, il n'y a vraiment pas de question sur, néanmoins, il fallait aider Israël à se défendre contre l'Iran. Et donc, du coup, c'est vraiment win-win for Israel, non ?
Rim ?
Alors, il y a plusieurs choses ici. Je vais essayer d'être aussi concise que possible et systémique. Donc, je pense que oui, la réponse iranienne, finalement, s'avère être une faute stratégique pour l'Iran. Parce que à travers cette attaque, Israël, qui était de plus en plus isolé diplomatiquement dans le monde, même au sein du Congrès américain, où on commençait à avoir une vraie dynamique en soutien à un conditionnement de l'aide militaire offensive à Israël, la frappe iranienne a complètement arrêté cette dynamique. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, effectivement, à un moment, on a eu l'impression, le soir de l'attaque iranienne, au moins le gouvernement israélien a voulu donner cette impression, qu'il y a eu une grosse coalition occidentale avec des Arabes qui s'est mise en place pour défendre Israël. Ce n'est pas exactement le cas. Ce n'est pas vrai. Les Arabes n'ont pas agi pour défendre Israël, les Arabes ont agi pour défendre leur souveraineté, qui était...
Et la stabilité dans la région, n'est-ce pas ?
Leur souveraineté.
Ouais, ok.
Leur souveraineté.
Parce que peut-être qu'on peut parler un peu plus tard de la France aussi, parce que moi aussi, je crois qu'il y a une lecture qui n'est pas seulement sur défendre Israël, mais aussi essayer d'éviter une escalade de manière plus générale au Moyen-Orient. Donc,
La frappe iranienne a violé la souveraineté de plusieurs pays arabes parce que les missiles sont passés à travers l'espace aérien de plusieurs pays arabes. Donc ces pays arabes ont voulu intercepter ces missiles. Donc ça s'est joué comme ça pour
eux. Ce qui est, soit dit en passant, une géostratégie intéressante de ce fameux conflit Israël-Iran dont tout le monde parle toujours, comme s'il n'y avait rien entre les deux. Ouais. Il y a des pays entre Exactement. Israël et Iran qui expliquent aussi pourquoi depuis toutes ces années, ce conflit n'a pas pris forcément la forme que certains lui imaginaient.
Et des populations. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, l'Iran se prétend être le grand champion du peuple palestinien et du peuple à Gaza. Eh bien, cette attaque a complètement détourné le regard de la situation catastrophique qui continue d'exister à Gaza. Donc vraiment, c'était pas génial pour l'Iran. Quatrièmement, ça a montré que les missiles balistiques et les missiles de croisière iraniens n'étaient pas aussi efficaces que le système iranien racontait depuis des années. Donc il y avait un peu un mythe autour. Après, j'aimerais nuancer un peu. Il ne faut jamais oublier que si les États-Unis n'étaient pas engagés, les États-Unis, l'armée la plus puissante au monde, n'étaient pas engagés avec leurs armes les plus à point aussi, n'ont pas été utilisées pour contrer cette attaque, je me pose la question de, un, est-ce qu'un autre pays aurait pu coordonner ce système de défense aérienne régionale comme les Américains l'ont fait? Est-ce qu'un autre pays aurait pu avoir les renseignements autant en amont pour détecter les missiles et leur trajectoire et les intercepter? C'était pas donné du tout. Après, évidemment, le système de défense aérien israélien est très performant. Personne ne le nie. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Iran a balancé ses missiles et a fait face à une défense aérienne coordonnée par la plus grande puissance militaire au monde, le Royaume-Uni, la France, Israël, avec un système de défense aérienne très, très, très performant, et certains pays arabes à qui l'Iran avait donné des informations en amont parce que l'Iran est aussi dans une posture d'essayer de calmer le jeu avec les Arabes en ce moment, et les Arabes ont passé ces renseignements aux Américains. Donc tout ça pour dire, pourquoi est-ce que les Iraniens ont fait ce mauvais calcul ? Ellie en parlait, c'est parce qu'il y a un vrai débat et même une ligne de faille qui commence à vraiment être au sein du régime, du système iranien, où les plus durs ont eu la main sur cette décision et ont pu convaincre le guide donc suprême Khamenei de franchir ce pas. Et moi, je me pose la question, depuis le 14 avril, est-ce qu'on les blâme à l'intérieur du système? Est-ce qu'ils sont un peu décrédibilisés?
Juste parce que je veux souligner un point que je trouve tellement important et je trouve qu'on n'a pas forcément parlé assez dans les médias, et c'est ce que Rim vient de dire sur l'importance de la coordination américaine. C'est pas seulement ce qu'ils ont fait pratiquement, militairement, kinétiquement, mais surtout l'aspect de coordination. Et c'est tellement important pour nous, Européens, parce qu'on n'arrête pas, enfin, au moins dans cette groupe-là, on n'arrête pas à rappeler tout le monde que les États-Unis sont en train de s'orienter un peu plus vers d'autres choses et que peut-être ils n'ont plus envie de jouer ce rôle de coordination partout et de se mêler dans toutes les problèmes du monde. Et donc pour moi, une fois de plus, cet événement a montré à quel point pour nous, Européens, et pour nos intérêts, les États-Unis sont importants. Et donc, juste pour souligner ce point, parce que c'est tellement important, et peut-être juste ajouter en tant qu'Allemande, c'est quand même très intéressant que là, on a eu la France et la Grande-Bretagne en pays européens qui ont agi directement et qui ont contribué à défendre Israël, tandis que l'Allemagne, qui dit quand même que l'existence de l'État d'Israël et sa raison d'État n'a rien fait.
Oui, mais pourquoi
pourquoi
la France et le Royaume-Uni?
Oui.
Parce que la France et le Royaume-Uni sont présents en Jordanie, donc en fait, ils sont intervenus, en tout cas dans ce qui est le cas de la France, pour effectivement protéger leurs propres emprises, de la même manière que les Jordaniens sont intervenus pour protéger leur espace aérien, davantage que de manière directe en appui à Israël, même si évidemment le résultat a été de faciliter le travail à Israël pour sa défense. Israël les en a remercié, remercier. Et voilà, je ne pense pas qu'il y ait de les volonté de nuire par ailleurs.
De manière assez autoritaire, par ailleurs, on peut le dire, parce que sur le moment, les Israéliens ont quand même annoncé ce que les Français avaient fait bien avant que l'appareil d'État français ne l'annonce, ce qui en soi est un petit point. On comprend bien pourquoi les Israéliens, Rim l'a dit tout à l'heure, ont voulu montrer que c'était une coalition très large de tout le monde. Voilà, ça pose quand même des questions sur, la communication autour de ces opérations.
Dans votre analyse, c'est vraiment une volonté. Finalement, personne n'a vraiment voulu défendre Israël.
Si, non, mais bien sûr. Non, mais après, encore une fois, tout ça a été anticipé. Les Français, comme les autres, se doutaient bien que ces salves de missiles ne ciblaient pas leurs propres installations, mais un pays qui se situait à l'ouest et qu'en intervenant, ils participaient de fait à la défense. Mais en même temps, ils faisaient respecter un principe de souveraineté ou de protection des approches face à une puissance qui avait une action hostile iranienne. Je reviens juste sur ce débat, effectivement, et ce sujet qui a été de dire finalement, les Iraniens savaient très bien que tout ça allait être intercepté, et donc ils n'ont fait ça que pour se donner un accord. Et là, y a deux points qui sont mis en avant. La question du préavis, ils les avaient alertés très, très en avance, et donc tout le monde était dans les starting blocks, voilà, ce qui, dans une certaine mesure, est vrai. Enfin, on échangeait même avec Rim la veille en disant, bon, bah, est-ce que ça va partir, etc. Donc tout le monde avait effectivement les yeux rivés sur le timing de ce week-end-là. Et puis, l'autre argument, c'est l'efficacité de la défense aérienne et antimissiles israéliennes ou israélo-américaines, en disant bon, les Iraniens savaient très bien que ça allait intercepter. Je ne suis pas convaincu par ces deux arguments. D'abord, le préavis, certes, le but était d'éviter une escalade régionale totalement incontrôlée avec des pays surpris, et finalement, mais un préavis en tant que tel ne vous permet pas d'arrêter une balle d'un pistolet qui vous tire dessus. Quand vous faites un duel, il y a un préavis, et voilà, c'est un petit peu la même chose. Et sur l'efficacité de la défense aérienne, clairement, il y a une volonté iranienne de saturation. Ils n'ont pas envoyé de missiles, ils n'en ont pas envoyé 20, ils n'en ont pas envoyé 100, ils en ont envoyé plus de 300.
Systèmes différents, en plus.
Systèmes différents, avec des trajectoires différentes, en utilisant effectivement des drones, des systèmes des missiles de croisière, des missiles balistiques de différentes portées, des missiles aéro-balistiques ou quasi-balistiques avec des charges manœuvrantes. On n'a pas... Alors, c'est un peu le problème pour les geeks, on rentre pas assez dans le détail, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments qui ont été publiés sur exactement la nature des systèmes. Sur les drones, on voit à peu près ce qui a été employé. Sur
le drone, globalement, c'est les Shahed.
Oui, alors on a les Shahed 136 qu'on connaît en Ukraine, et puis on a une version plus évoluée, plus rapide, plus manœuvrante, qui sont les Shahed 238. Sur les missiles de croisière, c'est pas très clair, parce qu'ils sont souvent mélangés avec les drones, et de fait, la différence est pas évidente. Et puis sur les missiles balistiques et quasi balistiques, là aussi on en a une idée de quelques systèmes, mais qui n'ont pas été confirmés, dont des missiles manœuvrants comme le missile EMAD par exemple, qui semblerait-il fait partie quand même des 5 à 7 missiles qui sont malgré tout passés et sont parvenus à toucher des cibles.
C'est là que c'est un peu troublant, c'est que la cible symbolique, elle a quand même de rien été touchée, c'est-à-dire la base aérienne d'où était parti le raid du 1er avril, c'est à peu près le seul endroit où il y a des missiles qui ont été tombés. Donc on ne peut pas s'empêcher de se poser la question de est-ce que, bon, ils ont fait la grande salve en sachant que tout ça serait probablement intercepté, et dedans, ils ont calé une demi-douzaine de vraiment bons systèmes pour la cible symbolique qui, eux, ont touché.
Exactement. Et tout ça en gardant en tête la trajectoire nucléaire de l'Iran, puissance de seuil, qui fait que, vu la taille d'Israël, même un missile avec une charge nucléaire suffirait totalement, on va dire, pour avoir des effets dévastateurs et impacter les intérêts vitaux. Donc on n'est quand même pas non plus là sur un pétard mouillé qui fait rigoler tout le monde. Et je peux vous dire que voilà, en Israël, ça a fait rigoler personne. Il y a un immeuble qui s'est effondré, il y a eu des blessés. Donc on n'est pas non plus sur un sentiment de toute puissance et de tranquillité en disant même pas peur.
Et je veux sur... Rima. En fait, c'est un point très important qui n'a pas assez été souligné. Je disais au début que le 7 octobre a été un tel traumatisme pour les Israéliens. Cette attaque a été encore un traumatisme en plus du 7 octobre. Il ne faut pas oublier que pendant 48 heures, 24 heures avant l'attaque iranienne, les écoles ont été fermées, les universités ont été fermées, les Israéliens, leur gouvernement leur a demandé d'aller dans les refuges, dans les abris. Il y avait beaucoup de nervosité, les gens avaient peur. En Israël.
Y compris dans des endroits qui ne sont pas forcément habitués, parce qu'on peut dire que ce n'est pas exactement la même chose de vivre à Tel Aviv où il y a des abris antimissiles absolument partout, et à Jérusalem ou pas du tout.
Exactement.
Parce qu'on n'a pas l'habitude de se prendre des roquettes à Jérusalem.
Exactement. Et ça, c'était important pour l'Iran, que ce genre de peur existe, ce genre de crainte existe dans la population israélienne. Deuxième chose, si vous regardez les trajectoires et les cibles, la plupart sont dans des territoires que l'Iran considère être des territoires palestiniens occupés. Le Golan, le Negev, Jérusalem. Par ailleurs, moi j'ai eu très peur à un moment. Après le départ de la salve, parce que quand on a compris qu'il visait Jérusalem, je me suis vraiment posé la question de quel taré a pris la décision de prendre le risque qu'un projectile s'abatte sur la mosquée d'Al-Aqsa, qui aurait déclenché l'apocalypse. Et quand je dis l'apocalypse, c'est que une partie des musulmans fervents du monde, s'ils voient le deuxième site le plus sacré de l'islam à se prendre même un débris, même pas un missile, ils vont pas s'arrêter pour se poser la question de « c'est la faute à qui ?» En fait, il va y avoir un soulèvement. Donc, c'est quand même...
Parlons pas que la mosquée Al-Aqsa est par ailleurs légèrement proche du mur des Lamentations.
Évidemment.
Enfin bon, bref.
Encore une fois, vrai risque d'escalade.
Effectivement, voir les missiles, les drones Shahed, ou les missiles qui passaient au-dessus du mont du Temple, enfin de l'esplanade des mosquées,
ça peut tendre.
Et c'est là où je me dis, en fait, les gens qui disent « Ah non, mais c'était juste un feu d'artifice, excusez-moi, mais le risque qu'ils étaient prêts à prendre... » Quand je dis apocalypse, vraiment, je n'exagère pas. Je veux dire, on parle de guerre religieuse pour le coup. Parce que, comme vous le dites, Alexandre, c'est un site qui est sacré pour deux grosses religions quand même. Donc ça...
Parce qu'à vrai dire, l'église du Saint-Sépulcre est pas bien loin non plus.
Oui, mais je veux dire, là, vraiment, on était au-dessus du mur des Lamentations et de la mosquée d'Al-Aqsa. Donc, il faut vraiment comprendre que... c'est pour ça que je parle d'un basculement de la doctrine de dissuasion iranienne. Et je vais faire un petit trait d'union, on ne va pas trop rentrer dans ce détail cette fois-ci. Mais franchement, on voit l'effet de ce que moi j'aime appeler l'auto-dissuasion des Occidentaux par rapport à la Russie en Ukraine, dans la posture actuelle de l'Iran. L'Iran a bien compris que les Occidentaux s'auto-dissuadent complètement par rapport à la Russie, parce qu'ils ont peur, parce que la Russie est une puissance nucléaire. Et maintenant, ils se disent, en fait, c'est le seul moyen. Il faut qu'on devienne une puissance nucléaire, parce que pour le coup, tout le monde sera auto-dissuadé. Et il faut qu'on commence à vraiment à comprendre quelles sont les vraies conséquences de la manière dont l'Occident a géré l'escalade en Ukraine. Ça a de vraies conséquences. Ça fait 2 années que nous, on dit que ça va avoir de vraies conséquences à travers le monde. Et là, avec l'Iran et Israël, on commence à voir les premières prémices.
Ouais, juste sur les aspects, pour conclure sur le fait que la défense aérienne et antimissile, je précise aérienne parce que la majorité des drones et des missiles de croisière ont été abattus par des avions en vol avec des missiles RR. Tout le monde s'imagine que c'est uniquement une défense antimissile avec des intercepteurs basés au sol, mais en fait, ça a montré
c'est quand même de très loin la meilleure manière d'intercepter des missiles. On a fait un épisode dans le viseur il n'y a pas si longtemps avec un colonel de l'armée de l'air qui racontait que l'interception des missiles outils aux Émirats. Bon, en vérité, si vous voulez voir loin, si vous voulez avoir de la longe et si vous voulez être capable d'intercepter et d'avoir plusieurs chances pour intercepter un truc, le plus simple, c'est de faire décoller des avions. En plus, ça coûte nettement moins cher que des intercepteurs.
En tout cas, après, ça va dépendre de votre propre missile intercepteur RR. Il y en a qui coûtent très cher, mais effectivement, globalement, c'est un bon rapport qualité-prix.
Mais les drones, ça s'est abattu au canon aussi. Ça coûte moins cher.
Voire aller au canon depuis un hélicoptère. Ouais. Mais ça marche. En tout cas pour des drones ou des missiles qui sont subsoniques, les missiles de croisière, hein, on a parfois des images tordues de la réalité, ça va pas beaucoup plus vite ou ça va pas plus vite qu'un avion.
Et d'ailleurs c'est parce que
c'est pas le cas du missile balistique.
C'est le problème, et on pouvait signaler, enfin je le lien vers ce témoignage, mais c'est que les outils notamment font passer leurs drones au-dessus des autoroutes parce que globalement ça peut aller à la même vitesse qu'une bagnole, et c'est pour ça que c'est compliqué à intercepter et que c'est d'ailleurs pratique d'être en avion pour bien essayer de faire la différence.
Voilà, donc bon, ceci étant précisé, deux limites, effectivement. Il y a un, c'est la contribution internationale, mais essentiellement américaine. Hein. Ils auraient intercepté jusqu'à un tiers de la salve. Donc ça pose quand même la question, si d'aventure les États-Unis changeaient de posture vis-à-vis d'Israël, effectivement, comment quelle crédibilité, ou en tout cas la dissuasion par déni, la capacité israélienne à démontrer le fait qu'ils sont invulnérables à ce type de frappe est telle. Et puis, le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la compétition de salve. C'est-à-dire que combien de missiles ou de systèmes intercepteurs vous devez faire partir et décoller pour combien de cibles pénétrantes arrivent sur votre territoire. Et là, on sait qu'en une nuit, en gros, ça a coûté plus d'un milliard à Israël pour intercepter cette salve. Dans quelle mesure l'Iran a les poches assez profondes pour reconduire ce type de menace, changer le type de charge, et dans quelle mesure ce système strictement défensif ici est soutenable. Donc en tout cas, tout ça pour conclure sur est-ce que cette attaque iranienne est juste un pétard mouillé, un feu d'artifice ou beaucoup plus? Je pense que on est plutôt d'accord autour de la table pour dire que c'était beaucoup plus et que ça avait une vraie signification avec un vrai risque d'escalade qui finalement n'a pas forcément débouché.
Mais du coup, la question, c'est la conclusion et ce vers quoi on en est arrivé aujourd'hui, puisqu'il y a eu une réponse israélienne dont qu'il faudrait analyser d'ailleurs, parce que à la fois ils ont réussi à taper des choses, en même temps c'était pas quelque chose de très massif. Il y a une guerre des discours qui est très réelle autour de ça, c'est-à-dire les gens qui soutiennent Israël ont dit ah là là, Israël a fait la preuve que eux, quand ils veulent pénétrer, ils y arrivent très facilement. C'est discutable au moins. Donc la question, c'est toujours cette question de la dissuasion, mais qu'on peut pas conclure puisque personne ne sait qui est dissuadé de quoi. Mais en tout cas là, le système étant revenu, si ce n'est à l'équilibre, au moins dans une phase un peu plus stable, qu'est-ce qu'on peut dire sur... Tout le monde dit on a restauré notre capacité de dissuasion. L'Iran le dit, Israël le dit. Qu'est-ce que vous en pensez, disons, à l'heure actuelle, de ce qu'on peut en voir? Je sais pas, Rim.
Je pense que l'Iran et Israël, premièrement, pendant l'attaque iranienne, ont aussi pu collecter des informations dont ils ont besoin sur les capacités des uns et des autres, sur les défenses aériennes, etc. Donc ça, ils vont l'utiliser pour le prochain épisode, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce n'est qu'un épisode dans cette longue guerre. La réponse israélienne, je pense, a envoyé un message clair aux militaires iraniens et aux gardiens de la révolution, leur montrant que, en fait, leur défense aérienne ne servait à rien. Parce qu'ils savaient les déjouer, ils savaient exactement comment passer à travers pour taper un radar très important dans une facility,
sur un site aérien d'un S-300 qui protégeait des installations nucléaires à Ispahan.
Et donc ça, ils l'auront bien compris. Évidemment, ils ont tout de suite essayé de dire ils n'ont rien touché, tout va bien, rien à voir ici, on passe à autre chose. Mais les messages ont été bien envoyés. Les Israéliens ont quand même écouté la demande des Occidentaux de ne pas rentrer dans une grosse escalade, donc de calibrer leur réponse, même si les Américains leur avaient dit ne répondez même pas. Mais ça n'était pas possible pour Israël. De se prendre
une salve de 300 engins directement de l'Iran et de ne pas répondre après le 7 octobre, même si les Israéliens étaient convaincus le 7 octobre que c'est l'Iran qui avait planifié les attaques du 7 octobre. Il s'avère, d'après les renseignements américains, que ça n'était pas nécessairement le cas. Mais quand même, dans le contexte du 7 octobre, c'était pas possible pour Israël de juste laisser passer cette attaque inédite. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où tous les yeux sont rivés sur le Liban et le Hezbollah. C'est très difficile évidemment de prévoir comment cette guerre va évoluer, mais c'est vrai qu'on est là sur une pente d'escalade assez inquiétante au Liban, avec le Hezbollah qui commence à changer de posture. Il va falloir observer ça de très près et voir si les efforts en cours diplomatiques américains et français d'ailleurs vont arriver à éviter un embrasement au Liban ou pas. Et si la réponse est pas, ce ne sera pas juste un embrasement avec le Liban, ce sera un embrasement avec un front en Syrie aussi, et des capacités. Il ne faut pas oublier qu'en 2006, Israël a eu beaucoup de mal contre le Hezbollah. Le Hezbollah, aujourd'hui, a des capacités bien plus importantes qu'en 2006, et clairement bien plus importantes que le Hamas, alors qu'Israël, ça fait quand même 7 mois qu'ils ont beaucoup de mal face au Hamas à Gaza.
Ça pose la question de donc, qui a intérêt à cette escalade. C'est ce que vous indiquiez au début, Rim, qu'Israël avait l'air assez chaud, donc ils ont l'air assez confiants.
Oui.
Manifestement, le Hezbollah a l'air assez confiant aussi.
Je pense quand même que la séquence qui vient justement de se dérouler a créé quand même quelques doutes sur l'appétence à l'escalade. C'est-à-dire que jusqu'à la frappe du 1er avril, les Israéliens, effectivement, accroissaient leur pression et leur frappe avec finalement assez peu de retour du côté iranien, même si, comme on l'a dit, quand même 100 000 personnes déplacées dans le nord, finalement, à travers une situation, a créé une pression politique extrêmement, extrêmement forte sur Netanyahou. Mais fondamentalement, ils avaient l'impression qu'ils pouvaient continuer ce jeu-là. Je pense que le gouvernement actuel en Israël, et aussi faucon soit-il, a pas forcément envie de se retrouver immédiatement dans la séquence des 300 missiles iraniens qui arrivent sur son territoire. Donc je pense quand même que ça a changé la donne, ça a repositionné les États-Unis quand même en garantie de sécurité, en garant ultime de la sécurité d'Israël, ce qui peut-être, et c'est un peu l'idée du papier de Maloney, leur donnerait des leviers supérieurs ça reste à prouver pour influencer sur le comportement escalatoire d'Israël vis-à-vis de l'Iran et du Hezbollah, et ce qui est beaucoup plus compliqué vis-à-vis de la guerre en cours à Gaza. Tout ça est quand même lié, et le jeu d'échelle est quand même très, 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 très compliqué à mettre en place. Mais si on le perd, on perd toute la saveur du conflit.
Mais est-ce qu'on pourrait justement parler de la possibilité ou de l'influence des États-Unis sur tout cela? Parce que justement, comme on disait au début dans cet article dans Foreign Affairs, pour moi, ça a vraiment créé cette idée que Biden peut trouver une solution à ce conflit, ou alors au moins peut vraiment influencer Israël. Et pour moi, la question, c'est vraiment, c'est quoi leur levier? Qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire? Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire aussi, étant donné leur discussion domestique, disons? Et peut-être, dernière petite question provocante, est-ce qu'il y a un rôle pour les Européens ou est-ce qu'on ne parle même pas?
Alors, les leviers des États-Unis, les États-Unis ont beaucoup de leviers avec Israël. Parce que les États-Unis, sans les États-Unis, Israël tient quelques jours dans la guerre, en termes de ravitaillement en munitions dont ils ont besoin pour faire la guerre à Gaza.
Est-ce qu'ils peuvent l'utiliser, ces leviers?
Alors, c'est ça la vraie question. Et c'est très intéressant parce que jusqu'à maintenant, l'administration Biden n'avait pas la volonté politique de le faire. Par contre, avant l'attaque iranienne contre Israël, on commençait à voir une dynamique parmi les membres du Congrès américain, surtout des démocrates, qui commençaient à dire, en fait, il faut qu'on conditionne l'aide offensive, donc les missiles qui sont utilisés par Israël pour taper sur Gaza, pas les missiles et munitions pour les défenses aériennes israéliennes, donc conditionner cette aide militaire offensive pour essayer d'arrêter ce conflit. Qu'est-ce qui a déclenché cette dynamique réellement? Il faut le dire, je pense, d'une manière crue, c'est le fait qu'Israël a tué 7 humanitaires, dont 6 occidentaux, qui travaillaient pour une ONG qui est gérée par José Andrés, qui est un homme qui a énormément d'influence à Washington, D.C. Et il faut être clair...
Donc José Andrés, c'est un chef, qui a une ONG qui s'appelle Kitchen Without Borders, je crois.
World Central Kitchen.
C'est pas son premier conflit où il déploie. Non. Et effectivement, c'est quelqu'un, suffit d'écouter plein de podcasts avec un peu influence. Souvent, ils en parlent parce que c'est quelqu'un effectivement qui a de la surface médiatique et relationnelle
qui est énorme
aux États-Unis.
Et c'est ce qui a vraiment fait bouger la situation. Après, l'attaque iranienne a vraiment mis un coup d'arrêt à cette dynamique. Mm-hmm. Donc ça, il faut voir maintenant s'il y a une capacité de retrouver cette dynamique. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, avant d'arriver là, parce que franchement, le conditionnement ou bien la suspension de l'aide militaire offensive à Israël, c'est vraiment le très haut niveau, même si ça a été déjà fait. Hein. Reagan l'a fait en 81 lors de la guerre du Liban. Mais il y a d'autres leviers que les États-Unis.
Ouais, ont. Là-dessus, on peut par ailleurs dire qu'on est quand même en contexte préélectoral pour Joe Biden.
C'est ça.
Et que dans la majorité de Joe Biden, en tout cas la majorité qu'il pourrait avoir, il y a à la fois de l'establishment tout à fait pro-Israël, comme l'est l'establishment washingtonien, et il y a aussi, il faut qu'il fasse voter des jeunes. Et que les jeunes, la question israélo-palestinienne, pour les jeunes aux États-Unis, elle est beaucoup moins réglée que
c'est
pour
pas,
les vieux.
C'est pas seulement les jeunes, hein. Enfin, juste à nouveau pour ne pas trop entrer dans les détails, en fait, Biden, dans sa campagne électorale de réélection, il y a une tension entre l'argent, qui est le nerf de la guerre aux États-Unis pour l'élection. Il a encore énormément de soutien et de financement, mais il a une coalition grandissante qui est contre sa façon de gérer la guerre à Gaza. Et cette coalition, elle est constituée, elle a commencé par les musulmans et les arabes aux États-Unis, elle s'est élargie aux jeunes et les gens de gauche, très 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 à gauche, et de plus en plus, une certaine partie de l'électorat noir, qui est vitale pour Biden, et une partie aussi de l'électorat juif.
Une dissociation entre la base politique est claire entre la base, on va dire, d'une part, et la classe politique. Et ça, je pense que qui est aujourd'hui très très problématique, ou avec un congrès qui l'empêche d'aller trop loin, et une base qui le menace de le sanctionner électoralement.
Et sans rentrer trop dans le détail du système électoral américain, en fait, tout se joue dans certains districts. Ce n'est même pas au niveau des États. Donc, 50 000 personnes qui décide de s'abstenir, donc ne voter ni pour Trump ni pour Biden, ça pourrait faire basculer l'élection dans certains États. Donc, juste pour finir sur les leviers américains, il y a aussi la coopération de renseignements militaires. Les Américains pourraient en donner moins. L'administration américaine pourrait arrêter de faire passer en urgence de l'aide militaire à Israël. Ça, c'est aussi un levier pour dire il faut passer par le processus. Et aussi, les États-Unis peuvent arrêter d'opposer leur veto systématiquement au Conseil de sécurité et de donner une couverture diplomatique importante. Les Européens, ils ont un levier, c'est le commerce. Et comme il n'y a pas de consensus à l'intérieur de l'Union européenne, ça va être très difficile d'utiliser ce levier. Pourquoi ce levier ? Parce que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël.
Mais c'est là où peut-être, juste pour terminer, on revient au problème soulevé par le papier d'Abrams, qui pose la question de qu'est-ce qui se passe à Gaza, de l'offensive en attente sur Rafah.
La thèse d'Eliot Abrams, c'est il faut absolument tout raser à Gaza. C'est, globalement, c'est il faut éliminer le Hamas absolument partout, parce que c'est comme ça qu'on tuera le levier de l'Iran, et c'est comme ça qu'on dissuadera Israël. Donc, soutien non limite à Israël, jusqu'à ce qu'ils aient tout rasé, et puis c'est comme ça qu'on résout la situation au Moyen-Orient.
Avec la suggestion d'une double solution, d'une force internationale sur Gaza après l'élimination du Hamas. Lui
une fois qu'il n'y aura plus rien,
lui considère que l'élimination du Hamas est un objectif possible, comparant à la situation de Daesh sur la zone syro-irakienne, ce qui évidemment est extrêmement problématique, faux à plein de niveaux, parce que précisément l'une des raisons du succès très relatif, voilà, de l'attaque contre Daesh côté irakien et côté syrien, c'est que les forces étaient des forces locales acceptées plus ou moins par la population. Fondamentalement, c'est quand même les Irakiens qui ont repris Mossoul et des Kurdes de Syrie, voilà, qui aujourd'hui contrôlent Raqqa et le nord-est syrien. Et il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui sur Gaza avec des forces palestiniennes. Et on sait très bien qu'une occupation israélienne serait infiniment plus problématique. Ils proposent une forme d'occupation internationale qui aujourd'hui me semble absolument impensable en termes de velléité, d'appétence, ni pour les États concernés,
qui veut aller
ni par Israël, même si on pourrait imaginer certaines choses se mettre en place. Ils balayent d'un revers de la main la question d'un retour de l'autorité palestinienne, qui est évidemment le seul sujet. Voilà. Politiquement acceptable, même si là encore on se voit très loin, mais en tout cas il pose la question. L'avantage, ce que ne fait pas Susan Maloney, de poser la question de qu'est-ce qui se passe à Gaza, qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie et qu'est-ce qui se passe au sud Liban. Et en tout cas, ces trois espaces-là vont être fondamentaux pour conditionner la manière dont Israël s'estime globalement rassuré sur son sentiment de vulnérabilité qu'on évoquait au départ, et sans pour autant ouvrir une escalade de violence infinie avec, si ça se fait de manière trop explicite, au détriment des acteurs politiques de ces trois espaces-là. Et ça, on reste quand même sur notre faim, si je puis dire, dans les deux articles de ce point de vue-là.
Je veux juste clarifier une chose, parce que peut-être que nos auditeurs vont se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on parle de pression sur Israël pour arrêter ce qui se passe à Gaza ? Aujourd'hui, il y a un peu un consensus qui dit que cette guerre à Gaza ne peut pas continuer. De toute façon, Israël n'arrive pas à accomplir ses objectifs, qui sont de détruire le Hamas et de libérer les otages. Il y a un consensus pour dire qu'il faut que ça s'arrête pour qu'on puisse commencer à trouver un rétablissement de la sécurité d'Israël, mais aussi arrêter de donner des leviers pour des puissances comme l'Iran d'embrasement dans la région. Évidemment, le point de vue israélien, du moins au gouvernement, est que la guerre doit continuer et qu'ils vont pouvoir détruire le Hamas.
Il faudra encore prolonger par des questions sur la politique israélienne et savoir ce gouvernement, cette coalition, par quoi elle tient et combien de temps ils peuvent tenir et combien de temps Netanyahou tiendrait au pouvoir et hors de prison si jamais la guerre s'arrêtait, ce qui est encore tout un dossier qui n'est pas pour aujourd'hui. Alors on va maintenant passer à la dernière séquence rituelle, donc les coups de cœur, coups de gueule. Donc chacun en a un. Je ne sais pas qui veut commencer. Rime.
Moi, je vais commencer avec. J'ai un coup de gueule qui est même un avertissement. Il ne faut pas que les Européens maintenant soient soulagés que les États-Unis ont passé un gros lot de soutien militaire et non militaire à l'Ukraine après 7 mois de panique. Qu'il faut qu'ils comprennent qu'il y a un vrai changement aux États-Unis, que les États-Unis ne vont pas revenir comme ils étaient, qu'ils ne sont plus engagés dans la sécurité européenne comme ils l'étaient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que vraiment, le temps presse, et qu'il y a urgence, et que les Européens, il faut qu'ils mettent les bouchées doubles, pour ne pas dire triples, pour agir d'une manière qui soit dans les temps de ce bouleversement du monde dans lequel on vit.
Oui, et que donc il suffit pas. Enfin, ça va permettre de gérer l'urgence probablement pour 2024 pour l'Ukraine, mais la question de la montée en puissance industrielle du point de vue de l'armement européen n'est absolument pas réglée, comme on le voit avec les prises de bec permanentes en France puis en Europe entre politique et industriel de l'armement. Ulrike,
moi j'ai un petit coup de cœur pour un autre article de Foreign Affairs. On fait vraiment la pub aujourd'hui. C'est un article qui est sorti il y a à peu près deux semaines, je crois, de David Lammy, ou David Lammy, le Shadow Foreign Secretary de la Grande-Bretagne, donc celui de l'opposition, donc Labour Party, qui est censé devenir le secrétaire d'État de la Grande-Bretagne. Et il a écrit un article, The Case for Progressive Realism, qui en fait fait vraiment l'argument d'un rapprochement de la Grande-Bretagne et l'Union européenne sur les questions de politique étrangère. Il propose aussi une coopération allemand-britannique sur les questions de défense et sécurité, donc ça j'ai bien aimé. Mais de manière générale, on voit que les choses en Grande-Bretagne sont en train de bouger. Tout le monde s'attend à une victoire du parti Labour dans les élections qui vont venir. Et donc ça peut aussi avoir des influences sur la politique de sécurité, défense, affaires étrangères européennes au plus large.
Ellie ?
Et moi j'ai un coup de cœur, une fois n'est pas coutume, pour le Kiel Institute en Allemagne qui vient de publier sa mise à jour de son tracker pour le soutien international à l'Ukraine. Et vous n'êtes pas sans savoir
donc c'est eux qui font globalement les chiffres et c'est eux qui
c'est la bête noire du gouvernement
c'est
français.
C'est eux qui prennent la tête avec le ministre des Armées depuis deux semaines à un mois parce que on s'engueule sur les chiffres et le ministre des Armées dit.
Voilà.
Ah, c'est pas juste, c'est pas bien compté.
Disons qu'il y a eu des attaques institutionnelles pas forcément très justifiées contre l'institut qui publiait sa méthodologie, et comme toute méthodologie avait faisait des choix, mais donc ils ont décidé quand même d'écouter les arguments des Français. Ils ont réévalué leur estimation de l'aide militaire française en prenant en compte l'effort de transparence du gouvernement français. Tout en expliquant dans leurs notes méthodologiques qu'ils sont quand même pas totalement convaincus et qu'il reste quelques paniers manquants dans la balance, mais fondamentalement on se rapproche quand même de quelque chose qui est un petit peu plus qui est un petit peu plus acceptable politiquement. Donc 2,6 milliards d'euros, ce qui est loin des 500 millions qui étaient annoncés avant, qui plaçaient la France vraiment en 15e position.
Jusque-là, le Kiel Institute disait la France n'a donné que 500 millions d'aide à l'Ukraine. Là,
en aide militaire bilatérale annoncée, sachant que c'était sur un calcul des engagements, mais la France ne publiant pas des engagements non réalisés. Enfin bon, donc il y avait effectivement des problèmes de périmètre ou de dimensionnement, même si, encore une fois, si on se donnait la peine de regarder le détail de la méthodologie, ça pouvait être clair. Mais tout ça est juste une affaire de geek de sciences politiques, d'économie, de la défense. Mais ce qui compte surtout le plus, et c'est le message qui est envoyé dans la dernière mise à jour, c'est l'effort collectif qui est fait en Europe et aux États-Unis. On voit à ce moment-là que l'Europe UE et non UE est aujourd'hui bien au-delà de l'aide multidimensionnelle délivrée par les États-Unis. Je pense que c'est un message apporté de l'autre côté de l'Atlantique, et de ce point de vue-là, ça nous aide pour dire aux Américains, oui, nous, Européens, sommes conscients que l'Ukraine est un enjeu européen, et nous portons et nous sommes prêts à porter davantage encore la responsabilité, le coût de ce soutien à l'Ukraine et de la guerre. Et je pense que c'est un message qui est important d'envoyer à Washington, parce que c'est la seule manière aussi de convaincre les Américains que leur part elle est une fair share, une part juste dans l'effort global.
Et moi, je vais terminer donc avec un coup de gueule, puisque comme ça fait 2-2, ça équilibre. Un coup de gueule pour l'ancien chef d'état-major des armées, François Lecointre, qui publie donc ces jours-ci, depuis quelques jours, un livre. Il est en tournée promotionnelle qui s'appelle Entre-guerres chez Gallimard. Et c'est pas sur le livre, parce que je l'ai pas lu, je l'ai pas reçu encore. Mais c'est sur les entretiens, notamment un entretien au Figaro, qui date du 13 avril, où, qui est filmé d'ailleurs, où il disait un certain nombre de choses. Mais il y a notamment une phrase qui a retenu mon attention, qui est en Afrique, au Sahel, j'avais le sentiment de combattre pour mon pays, car s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que l'avenir de l'Europe et de la France se joue en Afrique. Ce qui est une phrase proprement hallucinante à entendre de la part d'un ancien chef d'état-major des armées, donc 2017-2021, qui est toujours le grand commandeur de la Légion d'honneur, donc c'est pas comme s'il était à la retraite, tout à fait. C'est pas comme s'il n'avait pas d'influence et une place institutionnelle. Parce que, alors certes, il y a probablement une place un petit peu culturelle à ça. C'est-à-dire que François Lecointre a fait toute sa carrière dans les troupes de marine, ce qui est une arme expéditionnaire, la présence en Afrique est assez inscrite dans l'identité. Mais déclarer ce genre de choses, franchement, en ce moment, alors que le sentiment anti-français n'a jamais été aussi grand en Afrique, c'est exactement donner tout ce qu'il faut à tous ceux qui veulent porter ce discours. D'ailleurs, on ne s'y est pas trompé, Nathalie Yambe, l'inénarrable, donc la dame de Moscou, la relais de la propagande russe en Afrique, on a fait une vidéo pour dire que la France allait vouloir recoloniser l'Afrique prochainement, en s'appuyant d'ailleurs sur d'autres parts de l'interview qui disaient pas ça, évidemment, mais qui prêtaient tout à fait le flanc à ce genre de déformation.
Ce qui est toujours bon signe, cela dit, de se faire critiquer par Nathalie Yambe.
Ouais, mais alors là, elle avait vraiment du matos pour une fois, parce que, et voilà, c'est simplement l'idée que faut faire un peu gaffe avec ces choses-là, et le fait d'être marsouin n'excuse pas tout. Et sincèrement, vu la situation actuelle et l'image de la France en Afrique, franchement, on se passerait de ce genre de discussion, parce que c'est très difficile de convaincre que la France n'est pas une puissance coloniale, que la France cherche juste à maintenir des bonnes relations et à aider les pays qui en ont besoin pour leurs préoccupations sécuritaires, quand on dit que l'avenir, je cite, de l'Europe et de la France se joue... Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'avenir de l'Europe et de la France se joue en Afrique? Sérieusement? Qu'est-ce que ça veut dire?
Peut-être qu'il parlait juste du changement démographique.
Mais pourquoi le changement démographique de la France se joue en Afrique?
C'est la profondeur stratégique du continent européen.
Sincèrement, ça ne veut rien dire. C'est vraiment le genre de phrase, pour autant, qui est répétée dans des cabinets depuis des décennies. C'est vraiment le sort de prêt-à-penser vaguement, avec un vernis de culture, de la longue histoire de la France avec le continent africain. Longue histoire qui est totalement empreinte de la colonisation. Donc voilà, faut faire gaffe.
Et qui empêche de poser la vraie question de quels sont les défis sécuritaires et la manière d'y répondre. En effet, qui sont réels pour le coup.
Qui sont réels, et les partenariats. Et effectivement, bien sûr que probablement il y a des choses à faire. Et la France peut aider les pays africains à se stabiliser, etc. Pour ça, il faut se déprendre du soupçon de colonialisme, ce qui est exactement ce que ce genre de déclaration ne fait pas. Voilà, merci à tous. C'était mon coup de gueule. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci. Merci.
J'ai signalé, je ne sais pas si on va y arriver, mais on essaye de monter pour le dernier épisode probablement du Casque et la Plume de l'année. Ce sera, donc, on a dit qu'on faisait ça tous les deux mois, ce sera probablement courant juin, fin juin. On essaye de faire ça en public. On essaye de trouver un lieu, on essaye de trouver une date. Suivez un peu, si on réussit à trouver la date et le lieu, ce sera, je l'annoncerai évidemment, tant et plus sur les réseaux sociaux et autour des épisodes. Voilà, suivez un peu, ce sera l'idée, c'est de faire un truc un peu sympa en public pour la fin de l'année et de discuter. Voilà, je pense que le format s'y prête bien. Suivez ça si ça vous intéresse, ce sera évidemment probablement à Paris. Merci beaucoup. C'était donc le Casque à la Plume, mais donc un format du Collimateur, podcast produit par Alexandre Dublay, distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme notes et appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.